L'ascension fut un cauchemar. Le tas, bien que peu élevé, était terriblement raide. Et à chaque pas que je faisais, la masse d'ordures et de cendres descendait avec moi et cédait sous mes pieds. La poussière s'élevait et m'étouffait. C'était écœurant, fétide, affreux. Mais mon ascension était, je le pressentais, une question de vie ou de mort, et j'avançais péniblement. Les secondes me parurent durer des heures, mais les quelques secondes d'avance prises au départ, combinées à ma force et à ma jeunesse, me donnaient un grand avantage. Et tandis que plusieurs silhouettes progressaient derrière moi, dans un silence profond, plus menaçant que n'importe quel bruit, j'arrivais sans difficulté au sommet du monticule. Depuis lors, j'ai fait l'ascension du Vésuve, et alors que j'avançais péniblement sur cette pente morne parmi les fumées sulfureuses, le souvenir de cette nuit terrible à Montrouge me revint si vivement que je faillis presque m'évanouir. Le monticule était l'un des plus élevés de cette région d'ordures, et tandis que je grimpais vers le sommet, cherchant mon souffle, le cœur battant comme un gros marteau, je vis au loin, à ma gauche, la pleine lueur rouge du ciel, et plus près, le scintillement de lumière. Dieu merci! Je savais maintenant où j'étais et où passait la route de Paris. Pendant 2 ou 3 secondes, je fis une pause et regardai derrière moi. Mes poursuivants étaient encore bien en arrière, mais grimpaient résolument et dans un silence de mort. Au-delà, la cabane était une ruine, une masse de planches et de formes mouvantes. Je pouvais la voir aisément parce que des flammes en sortaient déjà. Les chiffons et la paille s'étaient de toute évidence enflammés à la flamme de la lanterne. Le silence, là encore. Pas un bruit. Ces pauvres vieux pouvaient au moins mourir comme il faut. Je n'eus que le temps de jeter un bref coup d'œil, parce que, en promenant un regard circulaire autour de moi pour me préparer à descendre, je vis plusieurs formes sombres qui se rassemblaient de chaque côté afin de me barrer le chemin. Maintenant, c'était une course à la vie, à la mort. Ils essayaient de m'empêcher de prendre la route de Paris, et alors, instinctivement, je descendis rapidement sur le côté droit. J'arrivais juste à temps, parce que, bien qu'il m'eût semblé descendre la pente en quelques pas, les vieillards rusés qui me regardaient firent demi-tour, et l'un d'entre eux, au moment où je me glissais dans l'espace ouvert entre 2 tas devant moi, réussit presque à m'atteindre d'un coup de la terrible hache de boucher. Sûrement, il n'existait pas 2 armes de ce genre dans les environs. Alors s'engagea une chasse vraiment horrible. Je devançais facilement les vieillards et, même lorsque quelques hommes, plus jeunes, et plusieurs femmes se joignirent à la chasse, je les distançais sans difficulté. Mais je ne connaissais pas le chemin, et je ne pouvais même pas me guider à la lumière dans le ciel parce que je courais dans l'autre sens. J'avais entendu dire que, à moins d'avoir une raison de faire le contraire, les hommes qui sont poursuivis tournent toujours à gauche, et c'est ce que je fis. Et je pense que mes poursuivants le savaient aussi, eux qui étaient plus des animaux que des hommes, et qui, soit astuce, soit instinct, avaient découvert de tels secrets pour leur usage. Si bien que, terminant ma course rapide, après laquelle j'avais l'intention de reprendre mon souffle, tout à coup, je vis devant moi 2 ou 3 silhouettes qui contournaient l'arrière d'un tas à ma droite. J'étais vraiment, maintenant, dans la toile d'araignée. Mais la pensée de ce nouveau danger fit naître en moi la ressource de la bête poursuivie, si bien que je descendis en prenant le chemin le plus proche à droite. Je continuai dans cette direction pendant 100 mètres, et puis, tournant à gauche de nouveau, compris que j'avais sans doute évité le danger d'être encerclé. Mais pas celui de la poursuite, parce que venait sur moi la canaille, rangée, déterminée, implacable, et toujours dans un silence menaçant. Dans l'obscurité plus profonde, l'état semblait maintenant être plus petit qu'auparavant, bien que, parce que la nuit venait, ils parussent plus grands en proportion. J'étais maintenant loin devant mes poursuivants, et je grimpais rapidement sur le tas devant moi. Oh, bonheur des bonheurs! J'étais presque à la limite de cet enfer des ordures. Loin derrière moi, la lumière rouge de Paris éclairait le ciel, et montait derrière les hauteurs de Montmartre une lumière faible, avec ici et là des points brillants comme des étoiles. Ma vigueur retrouvée après un moment, je sautais en courant sur les tas qui restaient, de taille de plus en plus petite, et me retrouvais plus loin sur un terrain plat. La perspective n'était toutefois pas rassurante. Tout devant moi était sombre et lugubre, et j'étais de toute évidence tombé sur un de ces terrains vagues marécageux au creux d'une dépression, et qu'on trouve ici et là près des grandes villes. Des lieux désolés, couverts d'ordures, dont l'espace permet d'entreposer en dernier recours tout ce qui est nuisible. La terre en est si pauvre qu'aucun squatteur, même le plus misérable, n'a envie de l'occuper. Les yeux accoutumés à l'obscurité de la nuit, et loin maintenant de l'ombre de ces affreux tas d'ordures, je pouvais bien mieux voir qu'auparavant. La raison en était peut-être que les reflets dans le ciel des lumières de Paris, bien que la ville fût à quelques kilomètres de distance, se reflétaient également ici. De toute façon, je voyais assez bien pour me repérer, au moins à quelques distances autour de moi. Devant moi se trouvait un terrain désolé, qui semblait absolument plat, avec les reflets d'ombre disséminés des étangs stagnants. Apparemment, loin sur la droite, parmi un petit groupe de lumières éparpillées, se dressait la masse sombre du fort de Montrouge, et à gauche, plus loin, pointillée par les rayons épars des fenêtres des pavillons, les lumières dans le ciel indiquaient la localité de Bicêtre. Après avoir réfléchi un instant, je me décidai à prendre à droite pour essayer d'atteindre Montrouge. Là au moins, je bénéficierais d'une sécurité relative, et il était possible que je pusse tomber bien avant sur quelques-uns des carrefours que je connaissais. Quelque part, pas très loin, devait se trouver la route stratégique, construite pour relier la chaîne extérieure des forts qui encercle la ville. Puis, je regardais derrière moi. Traversant les tas d'ordures, se dessinant en noir sur la lumière de l'horizon, plusieurs silhouettes se déplaçaient, et j'en vis, un peu plus sur la droite, plusieurs autres se déployer entre moi et ma destination. Il était évident qu'ils voulaient me barrer la route dans ce sens, et ainsi, mon choix devenait limité. Il fallait soit continuer tout droit, soit continuer à gauche. Me penchant à terre afin de me fixer l'horizon comme ligne de mire, je regardais soigneusement dans cette direction, mais je ne pus détecter aucune présence de mes ennemis. Je me dis que, puisqu'ils ne défendaient pas ou n'essayaient pas de défendre cette position, il était évidemment dangereux pour moi d'aller là-bas. Aussi, je décidai de continuer tout droit devant moi. Ce n'était pas une perspective réjouissante, et au fur et à mesure que j'avançais, la réalité empirait. Le terrain était devenu mou et spongieux, et de temps à autre cédait sous mes pieds en me rendant un peu malade. J'avais plus ou moins le sentiment de descendre, parce que je voyais autour de moi des parties de terrain plus élevées que celles sur lesquelles je me trouvais, et ceci dans un espace qui, à quelque distance, semblait absolument plat. Je regardais autour de moi, mais ne pus voir aucun de mes poursuivants. C'était étrange, parce que à chaque instant, ces oiseaux de nuit m'avaient suivi dans l'obscurité aussi facilement que s'il faisait grand jour. Combien je me blâmais d'être sorti habillé de mon complet de touriste en tweed, de couleur claire. Le silence et mon incapacité à percer mes ennemis, alors que je sentais qu'ils m'observaient, devenaient épouvantables. Et dans l'espoir que quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette horrible équipe pût m'entendre, je me mis à crier en élevant la voix, plusieurs fois. Pas la moindre réponse, pas même l'écho de ma voix ne récompensa mes efforts. Pendant un moment, je demeurais tout à fait inerte et fixais mon regard devant moi. Sur l'une des parties en relief du terrain qui m'entourait, je vis une forme sombre se déplacer, puis une autre, et encore une autre. Ceci à ma gauche, et apparemment pour me couper la route. Je pensais que de nouveau, je pouvais, grâce à mon aisance à courir, me tirer du jeu de mes ennemis. Aussi, à toute vitesse, je m'élançais. Floc ! Mes pieds avaient cédé sur une masse d'ordures visqueuses, et je tombais de tout mon long dans un étang puant et stagnant. L'eau et la boue dans lesquelles mes bras s'étaient enfoncés jusqu'au coude étaient malpropres et nauséabondes au-delà de toute description. Et dans ma chute soudaine, j'avalais même un peu de cette substance répugnante qui m'étouffa presque et me fit halter pour reprendre mon souffle. Jamais je n'oublierai ces minutes pendant lesquelles je restais là, tentant de récupérer, oubliant presque l'odeur fétide de cet étang sale d'où montait un brouillard blanc fantomatique. Le pire de tout, outre mon désespoir accru de bête chassée qui voit la meute des chasseurs se refermer sur lui, fut de voir, devant moi, tandis que je demeurais sans secours, les formes sombres de mes poursuivants se déplacer rapidement pour m'encercler. C'est une chose étrange que la façon dont notre esprit travaille à des sujets divers, même quand notre pensée emploie toute son énergie à se concentrer sur une nécessité terrible et pressante. J'étais, en ce moment même, dans une situation qui mettait ma vie en péril. Mon salut dépendait de ce que j'allais faire. La nécessité de choisir se faisait de plus en plus pressante. Et cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à la persistance étrange et acharnée avec laquelle ces vieillards me poursuivaient. Leur résolution silencieuse, leur obstination constante et sans pitié, même pour une telle cause, provoquait autant que la peur une once de respect. Ce qu'ils avaient dû avoir de la vigueur dans leur jeunesse. Maintenant, je pouvais comprendre la charge tourbillonnante du pont d'Arcole, l'exclamation méprisante de la vieille garde à Waterloo. La célébration inconsciente à ses propres plaisirs, même en de tels moments. Mais heureusement, elle n'est pas du tout incompatible avec la pensée d'où surgit l'action. Je compris d'un coup d'œil que, jusqu'à présent, j'avais échoué dans mon entreprise. Mes ennemis, pour le moment, avaient gagné. Ils avaient réussi à m'entourer sur trois côtés, et ils étaient décidés à me faire dévier sur la gauche, où régnait le danger, puisqu'ils n'avaient pas laissé de sentinelle. J'acceptais l'alternative, c'était le cas du choix de Hobson, et je m'élançais. Je devais rester sur la partie inférieure du site, puisque mes poursuivants en occupaient la partie élevée. Néanmoins, bien que le sol spongieux et le terrain accidenté me retardassent, ma jeunesse et mon entraînement me permirent de conserver la distance, et en suivant une ligne diagonale, non seulement je les empêchais de se rapprocher, mais encore, je commençais à m'éloigner. Ceci me donna du courage et des forces nouvelles, et en un tel moment, l'effet de mon entraînement régulier commença à se faire sentir, et je trouvai mon second souffle. Devant moi, le sol s'élevait légèrement. Je grimpais rapidement la pente et trouvais une étendue d'eau limoneuse, et au-delà, une digue ou une berge qui semblait noire et sinistre. Je sentis que si j'arrivais à atteindre la digue, là, je pourrais, en toute sécurité, avec un terrain solide sous mes pieds et un semblant de sentier pour me guider, trouver un moyen comparativement facile pour échapper à mes ennemis. Après avoir jeté des coups d'œil à droite et à gauche, et ne voyant personne dans mon voisinage immédiat, je concentrai mon attention pendant quelques minutes à regarder où je mettrais les pieds pendant que je traverserais le marais. Ce fut une traversée difficile et pénible, mais qui ne présenta pas de danger et demanda seulement quelques efforts. Peu de temps après, j'atteignis la digue. Je montai la pente en exultant, mais là encore, je reçus un nouveau choc. De chaque côté de moi se redressèrent plusieurs silhouettes accroupies. Venant de la droite et de la gauche, elles se jetèrent sur moi, chacune maintenait une corde d'une main. J'étais presque complètement encerclé. Je ne pouvais passer ni d'un côté ni de l'autre, et la fin était proche. Il n'y avait qu'une chance, je la tentais. Je me jetais à travers la digue et, échappant aux griffes de mes ennemis, sautais dans la rivière. À un tout autre moment, j'aurais trouvé que cette eau était infestée et sale, mais maintenant, elle était aussi bienvenue que la rivière pure pour le voyageur assoiffé. Elle était la route par où je pouvais me sauver. Mes poursuivants s'élançaient derrière moi. Si un seul d'entre eux avait tenu la corde, c'eût été ma fin, parce qu'il aurait pu me faire trébucher avec celle-ci avant que je n'eusse le temps de faire une brasse. Mais comme tous la tenaient, ils étaient embarrassés et ainsi ils prirent du retard, et quand la corde frappa l'eau, j'entendis le floc bien loin derrière moi. En quelques minutes de brasse énergique, je traversai la rivière, rafraîchi par l'immersion et encouragé par mon esquive. Je grimpai la digue, l'humeur relativement gaie. D'en haut, je regardai derrière moi. À travers l'obscurité, je vis mes assaillants s'éparpiller de part et d'autre le long de la digue. De toute évidence, la poursuite n'était pas terminée, et de nouveau, je dus choisir une direction. Au-delà de la digue où je me trouvais, s'étendait un espace sauvage et marécageux, très semblable à celui que j'avais traversé. Je décidai d'éviter un tel endroit et réfléchis pendant un instant si je remonterais ou descendrais la digue. Je crus entendre un bruit, le bruit étouffé d'une rame, aussi j'écoutais, puis criais. Aucune réponse, mais le bruit cessa. Mes ennemis s'étaient apparemment procuré une barque ou toute autre embarcation. Puisqu'ils étaient sur la partie supérieure de la digue, je pris le sentier pour descendre et commençai à courir. En passant à gauche de l'endroit où j'étais entré dans l'eau, j'entendis plusieurs ploufs, légers et furtifs, comme le bruit que fait un rat quand il plonge dans l'eau, mais beaucoup plus important. Et en regardant, je vis les reflets sombres de l'eau brisés par les rides autour de plusieurs têtes qui avançaient. Quelques-uns de mes ennemis nageaient aussi dans la rivière. Et maintenant, derrière moi, en amont, le silence était rompu par le cliquetis rapide et le grincement des rames. Mes ennemis s'acharnaient à ma poursuite. Je pris mon équilibre sur ma meilleure jambe et repris ma course. Deux ou trois minutes après, je jetai un regard en arrière et à la faveur d'un rayon de lumière qui perçait les nuages informes, je vis plusieurs silhouettes sombres qui grimpaient la rive derrière moi. Maintenant, le vent s'était levé et l'eau à côté de moi était agitée et commençait à se briser en petites vagues contre la rive. Je devais garder les yeux passablement fixés à terre devant moi, de peur de trébucher, parce que je savais que trébucher, c'était la mort. Je me retournai quelques minutes plus tard. Sur la digue, il y avait quelques silhouettes sombres, mais traversant le terrain vague marécageux, il y en avait beaucoup plus. À quel nouveau danger devais-je m'attendre? Je ne savais pas. Je ne pouvais que deviner. Puis, comme je reprenais ma course, il me sembla que mon chemin descendait toujours sur la droite. Je regardai en amont, vis que la rivière était beaucoup plus large que tout à l'heure et que la digue sur laquelle je me trouvais disparaissait. Au-delà coulait une autre rivière, où je vis, sur sa rive la plus proche, quelques-unes des formes sombres qui maintenant avaient traversé le marais. J'étais sur une sorte d'île. Ma situation était maintenant vraiment désespérée, parce que mes ennemis me bloquaient de partout. Derrière moi, le bruit des rames devenait plus rapide, comme si mes poursuivants sentaient que le dénouement était proche. Autour de moi, de tous côtés, c'était la désolation. Aussi loin que portait mon regard, il n'y avait ni toit ni lumière. Au loin, sur la droite, se dressaient quelques masses sombres, mais j'ignorais ce que c'était. Je fis une pause pendant un instant pour réfléchir à ce que je devais faire, non pour aller plus loin, mais parce que mes poursuivants se rapprochaient. Je pris ma décision rapidement. Je glissai en bas de la rive et entrai dans l'eau. Je me dirigeais droit devant moi afin de gagner le courant, m'écartant ainsi de l'eau immobile autour de l'île, certain maintenant que j'étais dans la rivière, qu'il s'agissait bien d'une île. J'attendis qu'un nuage passât à travers la lune et laissa tout dans l'obscurité. Puis, j'ôtai mon chapeau et le posai doucement sur l'eau pour qu'il flottât. Une seconde plus tard, je plongeai sur la droite et commençai à nager sous l'eau de toutes mes forces. Je passai, je pense, une demi-minute sous l'eau, et quand je refis surface, aussi doucement que possible, je me retournai pour regarder en arrière. Un peu plus loin, flottait gaiement mon chapeau de feutre clair. Immédiatement derrière venait un vieux bateau branlant, propulsé furieusement par une paire de rames. La lune était encore en partie obscurcie par des nuages qui flottaient autour, mais dans la lumière imparfaite, je pus voir un homme, debout à l'avant du bateau, tenant en l'air, prêt à frapper, ce qui me sembla être cette hache terrible à laquelle j'avais échappé auparavant. Tandis que je regardais, le bateau se rapprochait de plus en plus et l'homme frappa sauvagement. Le chapeau disparut. L'homme tomba à la renverse, presque par-dessus bord. Ses camarades le retinrent, mais pas la hache. Et tandis que je me retournais et nageais de toutes mes forces pour gagner la rive plus loin, j'entendis le juron proféré d'une voix sourde par mes poursuivants déjoués. C'était la première parole humaine que j'entendais depuis le début de cette chasse épouvantable. Et bien qu'elle fût riche de menaces et de dangers pour moi, j'éprouvais du plaisir, parce qu'elle rompait le silence terrible qui m'entourait et me terrifiait. Elle était le signe tangible que mes ennemis étaient des hommes et non des fantômes, et qu'au moins je pouvais me battre en tant que tel, bien que je fusse seul contre plusieurs. Mais maintenant que l'envoûtement du silence était rompu, les bruits arrivaient, sourds et rapides. Du bateau à la rive et de la rive au bateau, des questions et des réponses furent échangées rapidement avec des chuchotements féroces. Je regardais en arrière, geste fatal s'il en fut, parce que à cet instant, quelqu'un aperçut mon visage dont la blancheur tranchait sur l'eau sombre et cria. Des mains se tendirent dans ma direction et presque aussitôt, le bateau repartit et s'élança avec rapidité. Je n'avais que peu de distance à parcourir, mais le bateau approchait de plus en plus rapidement derrière moi. Quelques brasses supplémentaires et j'étais sur la rive. Mais je sentais le bateau arriver et m'attendais à chaque seconde à ressentir le coup d'une rame ou d'une autre arme sur ma tête. Si je n'avais pas vu cette hache terrible disparaître dans l'eau, je ne crois pas que j'aurais gagné la rive. J'entendis les jurons lancés par les hommes qui ne ramaient pas et l'essoufflement des rameurs. Après un suprême effort pour sauver ma vie ou ma liberté, je touchai la rive et l'escaladai. Il n'y avait pas une seule seconde à perdre, parce que, immédiatement derrière moi, le bateau abordait et plusieurs formes sombres sautaient à ma poursuite. J'atteignis le sommet de la digue et, me dirigeant vers la gauche, continuai à courir. Le bateau s'élança et suivit dans la rivière. Je vis ce qui se passait et, craignant un danger dans cette direction, je fis rapidement demi-tour, descendis la digue de l'autre côté. Après avoir dépassé une petite étendue marécageuse, je gagnai un endroit sauvage, ouvert et plat, et poursuivis ma course. Toujours derrière moi, mes poursuivants me pourchassaient sans répit. Loin en avant, en dessous de moi, je vis cette masse sombre que j'avais déjà aperçue, mais elle devenait maintenant plus proche et plus imposante. Mon cœur battit à tout rompre, parce que je devinais que ce devait être le fort de Bicêtre, et reprenant courage, je continuais ma course. J'avais entendu dire qu'entre chacun des forts qui protègent Paris, il existait des voies stratégiques, des tranchées creusées profondément, où les soldats qui se déplaçaient pouvaient s'abriter de l'ennemi. Je savais que si je pouvais gagner cette voie, je serais sauf, mais dans l'obscurité, je n'en pouvais voir aucun signe, si bien que, dans l'espoir aveugle de l'atteindre, je continuais à courir. Peu de temps après, j'arrivai au bord d'une tranchée profonde et trouvai en dessous de moi une route protégée de chaque côté par un fossé empli d'eau, clôturée de part et d'autre par un mur haut et droit. Devenant de plus en plus faible et la tête me tournant de plus en plus, je continuai à courir. Le sol devenait de plus en plus accidenté, de plus en plus, jusqu'au moment où je trébuchais et tombais. Je me levai de nouveau et continuai à courir avec l'angoisse aveugle d'une bête pourchassée. De nouveau, la pensée d'Alice me donna du nerf. Je ne voulais pas disparaître et gâcher ainsi sa vie. Je me défendrai et me battrai jusqu'à l'épreuve finale. Faisant un grand effort, je m'agrippai au sommet du mur. Au moment où, me tirant comme un trapéziste, je me hissai en haut, je sentis nettement une main qui touchait la semelle de ma chaussure. Maintenant, je me trouvais sur une sorte de chaussée et je vis devant moi briller faiblement une lumière. Aveuglé et pris de vertige, je continuais à courir, trébuchais et tombais, me relevais, couvert de poussière. « Halte là !» Les mots résonnèrent comme une voix céleste. Une lumière éclatante, me sembla-t-il, m'entoura et je criai de joie. « Qui va là ?» Le cliquetis métallique des armes, l'éclat d'acier devant mes yeux. Instinctivement, je m'arrêtai, alors que, tout près derrière moi, mes poursuivants arrivaient à l'assaut. Un mot ou deux de plus, et du guichet se répandit ce qui me sembla être une marée rouge et bleue au moment où la garde sortit. Tout alentour parut se remplir de lumière, de l'éclat de l'acier, du cliquetis et du tintamarre des armes, et des voix fortes et bourrues donnant des ordres. Quand je tombai en avant, complètement épuisé, un soldat me rattrapa. Je regardai derrière moi, terrifié par l'attente, et vis le groupe de silhouettes qui disparaissait dans la nuit. Puis je dus m'évanouir. Quand je repris connaissance, j'étais dans la salle de garde. Ils me donnèrent un verre de cognac et peu de temps après, je fus en mesure de leur raconter une partie de ce qui s'était passé. Puis, un commissaire de police apparut, venu apparemment de nulle part, comme le fait d'habitude un officier de la police parisienne. Il écouta attentivement, puis délibéra un moment avec l'officier de service. Ils étaient sans doute d'accord, parce qu'ils me demandèrent si j'étais prêt maintenant à les accompagner. « Pour aller où ? » demandai-je en me relevant. « Retour au tas d'ordures. Peut-être les attraperons-nous encore. »«
Je vais essayer, » dis-je.
Il me regarda un instant fixement et me dit brusquement. « Aimeriez-vous attendre un peu ? Ou même jusqu'à demain, mon jeune Anglais ?» Cela me toucha au fond du cœur, comme peut-être il le voulait, et je sautai sur mes pieds. « Partons maintenant, » dis-je. « Maintenant ! Maintenant !» Un Anglais est toujours prêt à faire son devoir. Le commissaire était aussi débonnaire que sagace. Il me tapa sur l'épaule d'une façon amicale. « Brave garçon, » dit-il, « pardonnez-moi, mais je savais ce qui vous ferait le plus de bien. La garde est prête. Allons-y !» Ainsi, après avoir traversé la salle de garde et suivi un long passage voûté, nous sortîmes dans la nuit. Quelques-uns des hommes en avant avaient de puissantes lanternes. Nous franchîmes la cour et descendîmes un chemin en pente pour sortir sous une poterne vers un chemin creux, le même que celui que j'avais vu dans ma fuite. Les soldats reçurent l'ordre de marcher au pas gymnastique, et d'un pas vif et sautant, moitié courant, moitié marchant, ils avancèrent rapidement. Je sentis mes forces revenir de nouveau, tant il y a une différence entre un chasseur et un chassé. Une très courte distance nous séparait d'un ponton, bas de profil, qui traversait la rivière et apparemment très peu en amont de l'endroit où je l'avais franchi. On avait quelque peu sans doute essayé de l'endommager, parce que toutes les cordes avaient été coupées et l'une des chaînes avait été brisée. J'entendis l'officier dire au commissaire « Nous arrivons juste à temps. Quelques minutes de plus et ils détruisaient le pont. En avant ! Encore plus vite !» Et nous allâmes de l'avant. De nouveau, nous approchâmes d'un ponton sur la courbe de la rivière. En arrivant, nous entendîmes les boums creux des tambours métalliques au moment où ils cherchaient à détruire aussi ce pont. Un mot d'ordre fut lancé et plusieurs hommes pointèrent leurs fusils. « Feu !» Une salve retentit, un cri étouffé s'éleva et les silhouettes sombres se dispersèrent. Mais le mal avait été fait et nous vîmes la partie éloignée du ponton se balancer dans la rivière. Ce fut la cause d'un retard sérieux, car il nous fallut presque une heure pour remplacer les cordes et remettre en état le pont d'une façon suffisamment solide pour le traverser. Nous reprîmes la chasse. Nous avancions de plus en plus rapidement vers les tas d'ordures. Après un certain temps, nous arrivâmes à un endroit que je connaissais. Là se trouvaient les restes d'un feu. Quelques cendres de bois qui couvaient encore jetèrent une lueur rouge, mais la plus grande partie du feu était froide. Je reconnus le site de la cabane, et derrière le tas sur lequel j'avais grimpé, dans le rougeoiement des cendres, les yeux des rats brillaient toujours avec une sorte de phosphorescence. Le commissaire adressa un mot à l'officier qui cria « Halte !» Les soldats reçurent l'ordre de se disperser alentour et de se tenir aux aguets, puisque nous commençâmes à examiner les ruines. Le commissaire lui-même entreprit de soulever les planches brûlées et les débris calcinés. Des soldats les réunirent en les empilant. Peu après, le commissaire recula, se pencha et me fit signe en se redressant. « Regardez !» dit-il. C'était un horrible spectacle. Il y avait un squelette qui gisait, le visage tourné contre le sol. Une femme, apparemment. Entre les côtes se dressait un pieu, long comme une épée, semblable à un couteau à aiguiser de boucher, dont la pointe acérée était enfoncée dans l'épine dorsale. « Vous remarquerez, dit le commissaire à l'officier et à moi-même en sortant son calepin, que cette femme a dû tomber sur son couteau. Les rats pullulent ici. Regardez leurs yeux qui brillent dans cet amas d'os. Et vous observerez aussi, je frémis quand il passa sa main sur le squelette, qu'ils n'ont guère perdu de temps. Les os sont à peine froids. » Aucune autre présence ne se manifestait dans les parages, morte ou vivante. Se reformant en ligne, les soldats reprirent donc leur route. Nous arrivâmes peu après à la cabane construite avec l'armoire ancienne. Nous nous en rapprochâmes. Des vieillards, dans 5 des 6 compartiments, étaient en train de dormir. Endormis si profondément que même la lumière des lanternes ne les réveilla point. Ils paraissaient décatis, sinistres et gris avec leurs visages émaciés, ridés et burinés, et leurs moustaches blanches. L'officier leur adressa durement un ordre d'une voix forte, et à l'instant, chacun des 6 vieillards fut debout devant nous, se tenant au garde-à-vous. « Que faites-vous ici ?»«
Nous dormons, » répondirent-ils.
« Où sont les autres chiffonniers ?» demanda le commissaire.
« Partis travailler. »«
Et vous ?»«
Nous sommes de garde. »«
Peste !» dit l'officier en riant sardoniquement, regardant les vieillards l'un après l'autre bien en face. Puis il ajouta avec une cruauté froide et délibérée « Endormis à votre poste, c'est cela la façon de faire de l'ancienne garde ? Waterloo, rien alors d'étonnant !» Éclairé par la lumière de la lanterne, je vis les visages vieux et sinistres devenir pâles comme la mort, et je faillis frémir en voyant l'expression de leurs regards quand les soldats firent écho à la plaisanterie impitoyable de l'officier. Je sentis à cet instant que, dans une certaine mesure, j'avais ma revanche. Pendant un moment, ils parurent être sur le point de se jeter contre l'homme qui les insultait, mais des années de vie de soldats les avaient entraînés et ils restèrent silencieux. « Vous n'êtes que 5 !» dit le commissaire. « Où est le 6e ?» La réponse tomba avec un gloussement sinistre.
« Le voici !»
Et celui qui parlait montra du doigt le fond de l'armoire.
« Il est mort cette nuit. Vous n'en trouverez pas grand-chose. Il est rapide. L'enterrement des rats. »
Le commissaire se pencha pour regarder à l'intérieur de l'armoire. Puis il se retourna vers l'officier et dit calmement
« Autant repartir. Il n'y a plus de traces maintenant. Rien ne prouve que cet homme était celui qui a été blessé par les balles de vos soldats. Ils l'ont probablement tué pour effacer toute trace. Regardez. »
De nouveau, il se pencha et posa ses mains sur le squelette.
« Les rats travaillent vite et ils sont en grand nombre. Les os sont encore tièdes. »
Je frémis et bien d'autres autour de moi firent de même.
« Formez-vous !» dit l'officier.
Et ainsi rangés en ordre de marche, les lanternes se balançant en avant, les vétérans menottes au poignet au centre du groupe, nous abandonnâmes d'un pas rapide les tas d'ordures pour prendre le chemin de retour du fort de Bicêtre. Mon année de probation est terminée depuis longtemps, et Alice est ma femme. Mais quand je jette un regard en arrière, sur cette période difficile de 12 mois, de tous les incidents qui me reviennent à la mémoire, le plus vivace est celui qui est associé à ma visite à la Cité des Ordures. C'était « L'enterrement des rats » de Bram Stoker.